Bonjour, connaissez-vous Grégoire de Nyssa? C'est un chrétien du IVe siècle, un père de l'Église qui a été évêque de la ville de Nice. Non pas Nice sur la côte d'Azur, mais Nyssa, près de l'actuel Istanbul en Turquie. Eh bien, Grégoire de Nyssa a donc écrit un commentaire sur la vie de Moïse dans lequel il a insisté sur un thème qui nous rejoint aujourd'hui. Pourquoi, se demande Grégoire, Moïse a-t-il pu libérer son peuple? Eh bien, répond Grégoire, parce qu'égyptien par son éducation et hébreu par son origine, Moïse précisément a su tirer parti de sa double appartenance. Eh bien, mes amis, savez-vous qu'il en a été exactement de même avec les fameux mages dont je veux parler ce dimanche? Et si je vous en parle, c'est parce qu'eux aussi ont conjugué leur double appartenance, d'une part leur culture scientifique profane, et d'autre part leur foi naissante en Jésus-Christ. Les mages cherchaient à la fois un chemin et une lumière pour se diriger, pour donner du sens à leur recherche. Or, l'étoile dont il nous est parlé dans le texte de Matthieu chapitre 2, les mages ne se sont ni satisfaits du signe découvert dans le ciel, ni ne sont restés immobiles. Non, ils se sont mis en marche avec persévérance et ils se sont ouverts à une autre réalité. Et là, on commence à comprendre que la démarche des mages, en se rendant à la crèche de la Nativité et en repartant ensuite vers leur pays, préfigure la démarche de tout chrétien qui, après s'être incliné devant Jésus, doit ensuite annoncer sa bonne nouvelle au monde. Quand l'Évangile nous relate l'histoire de ces mage venu d'Orient, Matthieu ne nous dit ni le nombre, ni le nom de ces personnages, ni n'a non plus laissé entendre qu'ils pouvaient être des rois. Mais c'est pourtant bien ainsi, en s'appuyant sur ce récit, que les chrétiens assez tôt ont fêté cet épisode important de l'Évangile, le nommant l'Épiphanie. L'Épiphanie, d'un mot grec qui veut dire « manifestation ». L'épiphanie que beaucoup appellent malgré tout la fête des rois est donc étymologiquement la fête de la manifestation de Dieu aux hommes en la venue de Jésus. Manifestation, en l'occurrence, du Dieu de l'Évangile à des non-juifs, ici, pour annoncer par avance l'universalité du salut offert à tous en Jésus-Christ, à la fois homme et fils de Dieu, Seigneur et Sauveur. Parfois, comme les mages, avant et après le tournant de l'année, nous aussi nous ne savons pas ou plus où trouver Jésus. Peut-être l'avez-vous cherché, mais vous vous rendez compte que vous cherchiez au mauvais endroit. Vous avez essayé ceci ou cela, ici ou là, mais vous n'avez pas vraiment trouvé ce que vous cherchiez. Vous n'avez pas trouvé celui que vous cherchiez. Ou peut-être que lui, vous le cherchiez sans le savoir. Et vous avez du mal à trouver où se trouve Jésus au milieu de vos circonstances actuelles. Cette période n'est-elle pas souvent pour nous pleine de questions, plus que de réponses, et plus de souffrances que de joie? Le récit de Matthieu nous donne aujourd'hui pourtant de l'espoir. Ceux qui cherchent Jésus sérieusement, avec ferveur, le trouveront. Ce n'est pas le lieu qui dicte le chemin. Le chemin est défini par l'obéissance au conseil que Dieu offre. Ainsi, Matthieu nous dit que les mages suivirent l'étoile qu'ils avaient vue et qu'elle les précéda et s'arrêta au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ces mages furent remplis de joie. La réponse à la question de savoir où se trouvait Jésus leur a donc été donnée par l'obéissance à voir et à suivre. Et cette obéissance et cette ouverture est donc récompensée par la joie de le trouver. Le voyage des mages concerne à la fois, vous l'avez compris, une destination physique et une détermination fidèle. Ils ont suivi l'étoile pour trouver le Dieu qu'ils cherchaient, pour trouver le roi qu'ils cherchaient. Bref, les mages sont venus chercher et ont trouvé le Sauveur. Mes amis, le même espoir s'applique à nous aussi en ce début d'année civile nouvelle. Et lorsque dans notre cœur nous nous demandons « Où puis-je trouver Dieu ?» et que nous le cherchons vraiment avec foi, alors nous le trouverons. Le « Où puis-je trouver Dieu ?» le « Où » de la question peut nous surprendre, c'est vrai. Mais lorsque nous sommes ouverts et disponibles, prêts à voir Jésus, en fait, nous l'entrevoyons en toutes circonstances. Ainsi, il se manifeste dans des bénédictions inattendues et des gestes de gentillesse. Il se manifeste dans le quotidien de notre vie pourvu que nous ouvrions nos yeux. Il se manifeste aussi lorsque nous sommes généreux nous-mêmes et bienveillants, même lorsque ce n'est pas mérité. Et puis nous ressentons la présence du Seigneur et son réconfort lorsque nous lisons la Bible et que nous nous tenons devant lui dans la prière, ou bien lorsque nous participons à une célébration chrétienne dans notre Église. Les rois mages ont trouvé de la joie en répondant « Où est Jésus ?» Et certainement qu'il y a de la joie qui vous attend, vous aussi, en cette année qui vient de s'ouvrir. En fait, nous sommes tous mis au défi de venir à lui. Le récit de Matthieu, sur ceux qui cherchent à trouver Jésus, nous pousse aujourd'hui à faire de même, venir à lui partout où nous le trouvons, et là où il est déjà, à nos côtés. Et lorsque nous réfléchissons à tous les endroits où nous pourrions le trouver, l'histoire des rois mages nous met alors au défi d'être prêts à chercher où il se trouve et à le suivre dans l'obéissance. Nous pourrions y trouver notre joie, ne croyez-vous pas? Alors l'épiphanie, la manifestation de Jésus, oui, est une belle occasion pour nous de venir à Jésus et de repartir ensuite transformés et joyeux de l'avoir rencontré, de repartir, dit l'Évangile, par un autre chemin. C'est-à-dire autrement que lorsque nous sommes venus pour écouter ce message, prêts à affronter avec lui le Seigneur la réalité quotidienne des jours qui viennent. L'épiphanie. Oui, mais alors, qu'en est-il de cette histoire de gâteau ou de galette des rois et de la fève qu'on doit y trouver? D'où vient-elle, cette tradition? Eh bien, dans l'Antiquité romaine avait lieu, fin décembre, début janvier, la fête des Saturnales, au cours de laquelle on offrait des cadeaux aux enfants et décorait les maisons de gui, de houx, de lierre. On marquait ainsi le tournant de l'année et on tirait alors au sort un roi de la fête, en partageant un gâteau fourré d'une fève, donc, dont les parts étaient alors attribuées aux convives par la main innocente d'un enfant. Quant à la fève elle-même, la graine, elle évoquait la promesse du renouveau attendu avec l'année nouvelle. Mais si vous le voulez bien, revenons à Grégoire de Nice et à nos mages. comme Moïse. Les mages ont accepté de chercher, d'aller de l'avant et de persévérer dans leur parcours de vie, même que c'était difficile. Nourris eux-mêmes à la fois de leur propre tradition, compétences scientifiques, mais aussi de la culture biblique acquise en Palestine en venant adorer Jésus. Cela dit, chacun de nous possède aussi, comme Moïse et comme les mages, une double culture, une double appartenance. Pour vous, celle de votre existence personnelle, de vos traditions, de vos compétences actuelles ou passées, et puis celle de votre parcours chrétien, engagé dans telle ou telle église. Est-ce que vous avez conscience de cette richesse formidable? Comment utilisez-vous les deux réalités qui vous façonnent? Comment laissez-vous le lait qui vous nourrit spirituellement vous rendre fort et rayonnant dans ce monde, comme Moïse avait bu le lait de sa mère hébraïque afin de résister ensuite plus tard au pharaon égyptien? Qu'allez-vous faire de ce que Dieu vous donne cette année nouvelle? Mais pour l'heure, revenons encore au récit de Matthieu. Les mages, on le sait, ont donc offert trois cadeaux symboliques à l'enfant qui vient de naître. Il n'en a aucun usage immédiat. Eût-il mieux valu donner à ses parents des vêtements chauds, un cabas de nourriture, une chambre à l'auberge, et puis un peu d'argent? Eh bien ici, je vous signale en passant que le terme grec « doron » utilisé pour qualifier les cadeaux des mages, se retrouve 19 fois dans le Nouveau Testament, essentiellement pour désigner des offrandes faites à Dieu lui-même. Ici, Matthieu veut donc sans nul doute nous dire que les mages reconnaissaient déjà la royauté de l'enfant, et c'est pourquoi ils lui offrent de l'or. Ils reconnaissaient aussi sa divinité. Et il lui offre de l'encens, un parfum qui était réservé à ceux qu'on voulait honorer comme un dieu. Et il pressent aussi qu'il passera par la mort. Alors il lui offre de la myrrhe qui servait à préparer les morts au tombeau. Ce que nous pouvons dès lors retenir de l'offrande des mages, c'est qu'elle nous invite à ce que nos cadeaux à nous soient aussi des dons sans espoir de retour, des signes d'affection de notre part pour le Christ sans contrepartie, et non pas comme le monde pratique les choses, des investissements appelant un retour. Offrir de tout son cœur, c'est donc en quelque sorte limiter sa volonté de posséder et sa volonté de toute puissance. C'est accepter de ne pas être tout et laisser ainsi la place à l'autre, rappel de ma propre insuffisance, une limitation à notre désir humain de puissance et de maîtrise. Dans notre récit, mes amis, on voit bien que les mages, par leur offrande, reconnaissent humblement en Jésus quelqu'un de bien plus grand qu'eux. Les mages sont donc en quelque sorte le modèle chrétien du don et de l'offrande, motivés avant tout par l'aspiration profonde à être en présence du Christ, et puis à le laisser grandir en soi et dans la communauté chrétienne. Un désir et une aspiration qui impliquent bien entendu au préalable que je me place devant Dieu et que je laisse aussi tout ce qui n'est pas de lui. L'offrande à Dieu de notre propre vie et de nos biens est ainsi comme un appel d'air qui permet à son feu divin de grandir en nous et de nous embraser de l'intérieur. C'est en adoptant une attitude alors à la fois humble, reconnaissante et sincère que Dieu peut pleinement habiter le cœur de celui ou de celle qui a appris à limiter et à éduquer son désir, et que Dieu utilisera aussi pour briller désormais comme des lumières dans ce monde. Mais poursuivons. L'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Christ aux mages, nous montre clairement, je l'ai dit, que les non-juifs, les païens, peuvent désormais rencontrer le Christ et ensuite revenir symboliquement chez eux par un autre chemin, c'est-à-dire profondément transformé. Leurs trois cadeaux ont ici une signification symbolique, parce que dans l'Ancien Testament, l'or est le signe royal par excellence, et l'or permettait au roi, entre autres choses, de nouer des alliances avec ses voisins. Et puis l'encens est le signe du prêtre, dont la fonction est d'intercéder auprès de Dieu pour le peuple. La myrrhe, outre sa fonction mortuaire, je l'ai relevé, sert également à parfumer l'huile sainte qui est utilisée par le prophète pour l'onction sainte, c'est-à-dire pour consacrer au nom du Seigneur. L'or, l'encens et la myrrhe sont donc les signes, nous dit Matthieu, de la triple fonction de prêtre, de prophète et de roi dont Jésus est l'image par excellence. Vrai homme et vrai Dieu, Jésus est à la fois le médiateur entre Dieu et son peuple, le sauveur des hommes et celui qui établit le royaume de Dieu. Il est donc prêtre, prophète et roi. Les mages ont donc offert symboliquement des cadeaux très significatifs qui nous parlent encore aujourd'hui. Offrir. S'offrir au Christ, c'est donc accepter de recevoir de lui ce qu'il est venu nous donner, lui aussi, par sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire devenir chaque jour davantage des lumières qui rayonnent de sa lumière. Maintenant, l'offrande des mages me fait aussi comprendre que quatre temps, quatre verbes structurent la dynamique du don et de la grâce. Oui, ce sont quatre verbes, deux en D et deux en R. Demander, donner, recevoir et rendre. Il y a donc d'abord demander. Demander et vous recevrez, disait Jésus, en nous invitant à prier sans nous décourager. Demander est un acte d'humilité par lequel je reconnais ne pas être tout et dans lequel j'accepte de manquer, de ne pas être autosuffisant. Demander. Et puis, donner. Le premier don de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans l'enfant de Bethléem, Dieu se donne sans retenue, inconditionnellement. Il répond à la quête des mages et à nos propres demandes de sa présence dans nos vies. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, prophétisait Ésaïe dans l'Ancien Testament. À nous, maintenant, de nous inscrire dans cette réalité évangélique où se donner est encore plus important que de donner. Demander, donner et maintenant recevoir. Savoir recevoir ou bien accueillir est parfois difficile. Mais les mages l'ont réalisé à merveille. Ce roi, ils le reçoivent et ils l'adorent comme le roi devant lequel ils se prosternent. Eh bien, mes amis, pour nous aussi, c'est accepter de le considérer comme notre maître et notre guide. Enfin, dernier verbe de la dynamique du don et de la grâce, c'est le verbe rendre. Les mages reçoivent du ciel un signe et rendent, ou reconnaissent si vous préférez, à l'enfant de Bethléem les signes de sa royauté, l'or, de sa prêtrise, l'encens et de ce qu'il accomplira par sa mort la mire. Rendre est essentiel, non pas pour être quitte, mais au contraire pour entretenir avec reconnaissance, dans les deux sens du terme, une circulation de vie sans jamais l'interrompre. Voyez-vous, c'est la réponse gracieuse et reconnaissante à l'initiative gracieuse d'un autre. Je suis, en d'autres mots, invité à rendre à d'autres ce que j'ai moi-même reçu. Alors acceptons de faire confiance à Jésus, de marcher à sa suite. Et je sais que c'est aussi parfois progresser dans le brouillard, avec la seule certitude que le Seigneur est présent à nos côtés. Aurons-nous ce courage confiant de persévérer et de tenir bon dans les jours, les mois et l'année qui vient? Conserverons-nous notre capacité à servir sans résultat immédiat? Alors, au début d'une étape nouvelle, oui, interrogeons-nous honnêtement et appuyons-nous d'autant plus sur la grâce que Dieu renouvellera pour nous chaque matin. Voilà, mes amis, il est temps pour moi de terminer. Si nous sommes les mages d'aujourd'hui, notre feuille de route est toute tracée. En résumé, il s'agira d'être attentif aux signes de l'action de Dieu aujourd'hui, en acceptant de nous laisser transformer, de nous tenir en la présence du Seigneur, de lui offrir qui nous sommes, ce que nous avons, les trésors de notre savoir-faire, de nos compétences et de nos ressources, et de repartir dans ce monde comme ses témoins et ses ambassadeurs. Soyez bénis. Amen.